Bonjour et bienvenue à la balado Santé et Société. Je m'appelle Kate Bouchard, je travaille à l'Institut Santé et Société de l'Université du Québec à Montréal. Cette balado est l'occasion de discuter d'enjeux de santé depuis plusieurs points de vue et de faire connaître les expertises de nos membres. Alors, bonjour à tous et à toutes au balado Santé et Société de l'Université du Québec à Montréal. Nous avons aujourd'hui un étudiant au doctorat interdisciplinaire en santé et société, Samuel Saint-Amour. Bonjour.
Bonjour.
Samuel, vous avez gentiment accepté de nous parler aujourd'hui de différents aspects de votre recherche en cours et de votre parcours académique. Vous êtes en cinquième année de parcours au doctorat. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre projet de recherche doctorale en quelques mots? C'est toujours difficile en quelques mots, mais essayez.
Ce sera pas, ce sera pas énormément difficile de résumer ça assez rapidement. En fait, je teste l'effet de l'activité physique chez les gens qui ont un trouble de la personnalité limite. Donc, pour peut-être expliquer un peu plus ce que c'est que le trouble de la personnalité limite, parce que je me dis que c'est peut-être ce qui risque de poser un peu plus problème aux auditeurs. C'est reconnu comme un trouble de santé mentale, mais qui est vraiment associé au développement de la personnalité de la personne. Donc, c'est des gens qui vont généralement avoir des réactions très extrêmes, des gens qui vont être très impulsifs aussi, qui vont vivre des émotions 0 à 100 en permanence. Donc, on essaie vraiment de voir si on peut apaiser un peu ces gens-là, si on peut les amener à avoir un niveau émotionnel, un niveau de réaction un peu plus doux, un peu plus fluide avec l'activité physique.
Et dans le cadre de ce projet-là, quelles sont les études ou les études que vous avez menées plus particulièrement en lien avec ce champ-là?
Donc, mon doctorat se détaille en trois études différentes. La première étude, on a testé vraiment l'effet d'une séance unique d'activité physique sur les émotions vécues. Donc, vraiment, quelque chose d'un peu plus primaire même que les émotions. On demandait si les gens se sentaient bien ou non, excités ou non. Donc, on comparait 20 minutes d'activité physique à un vidéo neutre de 20 minutes suite à l'induction d'une émotion négative. Donc, on essayait de voir si l'activité physique faisait en sorte que les gens récupéraient plus rapidement de l'émotion négative qu'on leur avait induit que s'ils regardaient une vidéo neutre. Bon, malheureusement, on n'a pas eu les résultats escomptés avec cette étude-là, ce qui est un peu le réel de la recherche, en fait. Ça, c'est la première étude qu'on a faite. La deuxième étude, en fait, on sait que pour faire de l'activité physique aux gens, donc peu importe que ce soit monsieur, madame, tout le monde, peu importe que ce soit des gens avec un trouble, une maladie cardiovasculaire, un trouble de santé mentale, on sait qu'on a beaucoup plus de chances que les gens adhèrent à l'activité physique si l'activité correspond à leurs préférences. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un sondage en ligne pour essayer de répertorier les préférences en matière d'activité physique des gens qui ont un trouble de la personnalité limite. Puis on a diffusé ce sondage-là, cette enquête en ligne-là, au Canada, en France, aux États-Unis et je pense qu'on a peut-être certains participants aussi qui nous viennent de l'Angleterre et de la Suisse, si je ne me trompe pas. Donc, on a vraiment un échantillon qui est assez vaste. Puis la dernière étude qui est en cours présentement, on teste vraiment l'effet de 4 semaines d'intervention d'activité physique à raison de 3 séances par semaine d'une heure sur justement la dynamique émotionnelle, voir un peu comment les émotions évoluent au jour le jour. Donc, on demande aux gens de répondre 3 fois par jour à des questions sur leur téléphone. Leur téléphone intelligent leur envoie des notifications. Donc, pour nous indiquer quelles émotions ils vivent, à quelle intensité ils vivent ces émotions-là. Puis, Pendant l'étude, dans le fond, on a 4 semaines où les gens ne font pas d'activité physique, 4 semaines où ils font de l'activité physique, puis on compare, voir si, si on a un effet sur la dynamique des émotions avec l'activité physique.
Et là, peut-être que vous n'êtes pas rendu à analyser tous les résultats, mais selon votre intuition première, qu'est-ce que vous pensez que ces études-là peuvent amener pour aider la santé de la population?
On va reprendre le même ordre que j'ai détaillé à la question précédente. Pour la première étude où on testait vraiment une séance de 20 minutes, on espérait voir une amélioration plus rapide de l'activité physique, des émotions, pardon, par l'activité physique que par le vidéo neutre. Si on avait trouvé cette différence-là, ça aurait pu être inclus dans l'arsenal d'outils, tant des psychiatres que des psychologues, que des travailleurs sociaux, que des ergothérapeutes, que peu importe le professionnel qui travaille avec ces individus-là, pour les aider à gérer des émotions négatives qu'ils peuvent vivre au quotidien. Donc, vraiment leur dire, il y a quelque chose qui vous choque, qui vous amène des émotions négatives, au lieu de partir soit dans des raps qui peuvent être néfastes pour vous ou pour les autres, prenez le temps, prenez un 10, 15, 20 minutes, 30 minutes, allez prendre une marche, allez faire un peu d'exercice, allez dépenser de l'énergie, puis ça va peut-être vous aider. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles on n'a pas trouvé cette différence-là dans notre première étude. Ça serait à refaire, à reproduire pour essayer de donner des meilleures conditions, voir si vraiment on n'a pas de différence ou si c'était vraiment dû à notre protocole de recherche. La deuxième étude...
J'ai juste une petite question pour cette étude-là. Oui. Dans le fond, est-ce que la personne doit être assez réflexive pour déterminer « Ah, ça serait à ce moment-ci que je devrais aller prendre une marche ou aller courir. » Mais si elle n'est pas en état d'être mm-hmm. consciente de son état ou de ne pas être capable d'être assez en contrôle pour prendre cette décision-là, c'est peut-être là où... je ne sais pas, c'est une question en fait que je me pose là, par rapport à le degré de réflexivité qui est nécessaire pour entreprendre...
Non, c'est sûr que effectivement ça demande un certain niveau de réflexivité, de connaissance de soi, un peu de reconnaissance de ses émotions. Qui n'est pas nécessairement naturel chez tout le monde, encore moins chez les gens qui vivent avec ce trouble-là. Donc, probablement que ça demanderait quand même un certain travail de reconnaissance de ces émotions-là, un peu d'introspection pour être en mesure de vraiment identifier ces moments-là. Mais ça pourrait, après peut-être quelques semaines de thérapie ou quelques rencontres de groupe, des choses comme ça, où les gens commencent vraiment à mieux pouvoir identifier ces moments-là. Probablement que ça pourrait être, à ce moment-là, effectivement, que ce serait plus pertinent comme outil.
Merci.
Il n'y a pas de problème. La deuxième étude où on répertorie vraiment les préférences, ça serait encore là vraiment... surtout à l'usage des kinésiologues, des gens qui vraiment essaieraient de développer des programmes d'activité physique, ou même des chercheurs qui voudraient tenter de tester l'effet de l'activité physique sans nécessairement faire des rencontres individuelles vraiment longues, qui voudraient développer un programme d'activité physique un peu plus global qui réussirait à rejoindre un peu tout le monde. Donc, c'est vraiment de répertorier dans cette population-là, chez les gens qui vivent avec ce trouble-là, même si on sait qu'il y a beaucoup de différences individuelles quand même, mais il y a quand même ce type d'activité-là qui est vraiment plus populaire. Donc, nous, par exemple, on a trouvé que la marche, c'était vraiment l'activité physique qui était la plus appréciée chez ces gens-là. On a vu aussi que l'activité physique était supervisée par quelqu'un. C'était vraiment, vraiment une grosse préférence à ce niveau-là, surtout quand on compare, en fait, au aux gens qui ont d'autres types de troubles de santé mentale ou même les gens de la population générale qui n'ont pas nécessairement de troubles de santé mentale. Donc, on voit vraiment qu'il y a une bonne différence à ce niveau-là. Des programmes un peu plus encadrés, vraiment. Donc, on voit qu'il y a quand même un besoin de structure. Donc, ça, c'est un peu les résultats auxquels on n'avait pas nécessairement d'hypothèse sur qu'est-ce qui allait être les activités physiques préférées ou le type, le contexte d'activité préférée. On voulait vraiment juste détailler, étendre un peu qu'est-ce qui se passe dans cette population-là. Puis, bon, la dernière étude qui est présentement en cours, on sait que l'activité physique, quand c'est fait de façon régulière, donc plusieurs fois par semaine pendant un certain temps, ça peut amener à améliorer la régulation des émotions, donc vraiment aider les gens à avoir moins d'extrêmes, à avoir moins d'émotions négatives ou des émotions négatives moins extrêmes, encore une fois, avoir quelque chose qui est un peu plus neutre, mais aussi un peu plus facile à gérer. Puis, en fait, c'est un peu ça qu'on vise avec cette étude-là, donc où on teste vraiment 4 semaines d'activité physique à 3 séances par semaine. Donc, en fait, ce qu'on croit qu'on va observer, ça va vraiment être, en fait, dans les questions qu'on pose à tous les jours, ça va être des émotions qui vont être vécues de façon moins intense, puis moins de grosses variations entre, par exemple, des émotions très positives, des émotions très négatives au courant de la même journée. Donc, quelque chose qui est un peu plus stable.
Et à partir de ces résultats espérés ou en tout cas envisagés, dans le fond, votre recherche va ajouter aux connaissances actuelles qu'on a dans notre société. Puis en quoi est-ce que ça amène quelque chose de plus, dans le fond? Est-ce que ça va aider à développer différents champs? En quoi est-ce que ça amène quelque chose de nouveau aux connaissances?
En fait, c'est une bonne question. Jusqu'au début de mon doctorat, en fait, on n'a pas trouvé de recherche qui avait été faite en mettant en lien l'activité physique et le trouble de la personnalité limite. Donc, il n'y a pas de chercheurs qui s'étaient intéressés à ces problématiques-là encore. Donc, on sait que l'activité physique a quand même beaucoup d'effets sur plein de maladies physiques, de troubles de santé mentale, tout ça. Mais on n'avait pas d'informations sur ce trouble-là particulièrement. Puis on sait que, par exemple, la régulation des émotions, le fait de gérer les extrêmes, de passer de un à l'autre très rapidement, c'est un problème qui est vraiment central dans le trouble de la personnalité limite. Donc, les gens qui vivent avec ce trouble-là, généralement, le trouble est quand même... Il y a plusieurs théories de comment le trouble se développe, mais parmi les plus acceptés dans le domaine, c'est vraiment que le trouble part un peu de cette difficulté-là à gérer les émotions, puis que cette difficulté-là est beaucoup plus présente, beaucoup plus importante que ce qu'on peut retrouver dans d'autres troubles. Donc, si on est capable de diminuer un peu cette problématique-là, cette difficulté-là à gérer les émotions avec l'activité physique, ça nous aiderait vraiment à avoir une gestion du trouble qui est plus efficace, qui nous amènerait vraiment à réduire un peu les difficultés associées au trouble.
Et qui ne dépendent pas de médicaments ou de narcotiques ou
peu importe, d'interventions
chimiques là, dans le corps. En vous écoutant, je me dis, vous parlez de troubles de personnalité limite, d'activité physique, vous êtes au doctorat interdisciplinaire en santé et société, ce sont des champs disciplinaires que vous croisez dans le fond dans votre recherche. J'aurais envie d'en savoir un peu plus sur votre parcours académique. Comment est-ce que vous êtes arrivé à faire cette recherche-là?
Mon parcours est un peu un peu éclectique. Je suis allé un peu partout, en fait. Donc, jusqu'au cégep, j'avais pas nécessairement d'idée sur où je voulais m'en aller. Puis, j'ai fait, encore une fois, au cégep, j'avais un programme qui était assez interdisciplinaire. J'avais pas de concentration sciences nature ou sciences humaines. Je faisais un peu de tout. Puis, j'ai eu un cours en psychologie, puis c'est à ce moment-là que je me suis vraiment intéressé à ça. J'ai trouvé ça vraiment super intéressant. Donc, j'ai décidé de m'inscrire là-dedans pour mon bac en rentrant à l'université. Puis, pour vraiment faire carrière en psychologie, ça prend des notes vraiment super bonnes, ce que je n'avais pas nécessairement au début dans le bac. Puis, je ne voulais pas nécessairement devenir psychologue. À ce moment-là non plus. Donc, j'ai changé de branche. Je me suis dirigé vers la kinésiologie, donc l'étude de l'activité physique, du sport, vraiment de autant qu'est-ce qui peut affecter l'activité physique ou qu'est-ce que l'activité physique affecte, tout ça. Puis, j'ai trouvé ça intéressant. J'ai commencé à m'intéresser vraiment à la kinésiologie clinique, le fait d'utiliser l'activité physique pour aider les gens comme thérapie, principalement pour les maladies cardiovasculaires. Je me suis vraiment intéressé à tout ça. J'ai commencé une maîtrise pour pousser un peu plus loin, essayer de développer un peu plus mes connaissances, mes capacités, tout ça. Puis, en parallèle, en fait, pendant mes études en kinésiologie, j'ai travaillé dans un centre de conditionnement physique, dans un gym. Puis, par hasard, j'ai eu une cliente qui était en arrêt de travail depuis 3 ans, je pense, à ce moment-là, pour dépression majeure. Puis, j'ai vu vraiment une toute autre approche de l'activité physique que je n'avais pas avec personne d'autre. Donc, elle était vraiment là par prescription de son psychiatre qui lui avait dit « Si tu ne fais pas d'activité physique 3 fois par semaine, on va te reprendre ici, on va te trouver un lit, puis tu vas repasser un autre séjour à l'hôpital. » C'était un peu sévère. Intense. C'est assez sévère. J'ai l'impression que ça ne l'a peut-être pas aidé à certains points que cette prescription soit aussi sévère, mais j'ai trouvé vraiment que le but de l'activité physique, l'approche de l'activité physique était vraiment particulière avec les problématiques de santé mentale. Puis j'ai commencé à creuser un peu, j'ai commencé à chercher parce que je n'avais jamais entendu parler de ce lien-là qui est fait entre l'activité physique et la santé mentale. Dans mes 3 années de bac en kinésiologie, dans ma première année de maîtrise, j'ai eu peut-être un 15 minutes dans un cours où on en a discuté, puis c'est pas mal tout. Donc, j'ai commencé à chercher un peu, puis j'ai trouvé un stage dans une clinique de premier épisode psychotique. Donc, les gens pour qui se déclenche, par exemple, des troubles comme la schizophrénie ou d'autres troubles qui peuvent être accompagnés de psychose, donc d'hallucinations, déconnexion de la réalité. J'ai passé un bon 8 mois dans cette clinique-là à faire des stages, à faire de l'activité physique, organiser des groupes de sport, participer à des projets de recherche. Puis, à ce moment-là, je ne savais pas encore que j'allais continuer au doctorat. Je pensais que j'allais finir ma maîtrise clinique un peu plus, puis aller trouver un poste à quelque part. Puis, plus ça allait, plus mon maître de stage à ce moment-là était au postdoctorat puis me faisait participer à ses projets de recherche. Il m'a introduit un peu à la recherche. Puis de fil en aiguille, ben, je me suis intéressé à continuer à la recherche. Donc, j'ai commencé, j'ai cherché un directeur qui pourrait m'accueillir pour un doctorat. C'est comme ça que j'ai trouvé mon directeur. Je n'avais pas une idée vraiment précise de ce que je voulais faire en rentrant là. Je savais que je voulais m'intéresser un peu à la grande thématique activité physique et santé mentale, mais rien de vraiment précis. Donc, on a commencé à faire des petits projets. On a commencé à regarder ensemble, lire un peu ce qui se faisait dans la littérature scientifique. Puis, en même temps, mon directeur est allé faire une présentation sur l'activité physique et la santé mentale à l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal, où il est chercheur associé. Puis, à la fin, il y a un psychiatre qui est venu le voir, qui lui a dit « Ah, c'est super intéressant, j'aime vraiment ça, les nouvelles approches comme ça. L'activité physique, je crois que ça a beaucoup de bénéfices. » On l'a vu vraiment, tu nous as présenté des preuves qui sont vraiment, vraiment convaincantes. Mais je me demande, est-ce que tu sais ce qui se fait par rapport aux troubles de la personnalité? Moi, c'est vraiment ma spécialité en psychiatrie. Est-ce que t'en as pas vraiment parlé dans ta présentation? Le directeur a dit... j'ai rien lu pour l'instant là-dessus. Donne-moi une semaine, je te reviens avec ça. Le lendemain, il m'a rencontré dans son bureau. Il a dit « Samuel, je te donne une semaine pour trouver tout ce qu'il y a sur activité physique et troubles de la personnalité. » Puis au bout d'une semaine, on a cherché les deux chacun de notre côté, puis on n'a rien trouvé. Donc, on s'est dit « c'est
voilà ça. » Voilà la contribution.
Exact. C'est une belle niche. On voit qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire là-dedans. Il y a quand même des problématiques qui sont assez sévères. Donc, on peut essayer de voir ce qu'on peut faire avec l'activité physique. Puis c'est un peu comme ça que je me suis rendu à m'intéresser à ce sujet-là.
Bien, c'est un parcours intéressant. Et dans le fond, moi, j'aurais peut-être une dernière question en terminant pour vous. Comme vous travaillez avec une clientèle, ou je ne sais pas si on peut appeler clientèle, c'est peut-être pas le bon mot, là, mais les personnes atteintes de ce trouble-là, ça peut être une population qui est difficile d'accès ou je sais pas, je m'imagine. Là, alors, je me posais la question, est-ce que vous avez rencontré des difficultés pendant ou des résultats inattendus aussi, là, des difficultés en parcours, en cours de recherche que vous voudriez partager avec nous?
Ben oui, en fait, le fait de rejoindre les gens qui ont cette problématique-là, c'est déjà quelque chose qui est relativement difficile, mais le fait qu'on soit quand même, qu'on collabore en fait depuis le début avec le psychiatre qui est venu poser la question à mon directeur, ça rend les choses quand même un peu plus faciles. Je dirais que pour l'instant, en fait, ce que les grandes difficultés que j'ai eues, c'est vraiment avec mon premier projet de recherche où on induisait une émotion négative puis qu'on testait l'activité physique ou le vidéo nerd par la suite. En fait, la façon dont on induisait l'émotion négative, c'est en faisant visionner une scène du film Le silence des agneaux. Donc, à la toute fin, quand il y a une poursuite dans le sous-sol sombre du criminel qu'on poursuit, qu'on chasse. Donc, ça a été la plus grosse difficulté que j'ai vraiment observée dans mon doctorat à présent. Il y a des gens qui ont vraiment aimé cette scène-là. Ils ont reconnu soit le film duquel ça venait ou c'est vraiment des gens qui aiment les films un peu plus thriller ou suspense ou qui sont stressants, donc ils ont vraiment vécu des émotions positives. Ça vraiment, en fait, c'est en partie pour
inattendu.
Ça qu'on...
C'était
exact, inattendu. On n'a probablement pas eu les résultats qu'on espérait parce que on essayait de tester quelque chose sur les émotions négatives. Là, ça produit des émotions positives. D'un autre côté, j'ai l'extrême complètement opposé. Il y a des gens qui ont très, très mal réagi à cette scène-là. Quelqu'un qui s'est venu chercher vraiment beaucoup, puis qui avait des antécédents de psychose, justement, puis que elle me disait que ça filait pas, ça allait pas trop bien, mais elle allait quand même continuer le protocole, puis à la fin, elle était vraiment en train de décompenser, de faire une psychose, puis il a fallu que je l'accompagne aux urgences psychiatriques après le projet de recherche, parce que la scène l'avait vraiment trop troublée. Donc, je dirais que les plus grandes difficultés que j'ai rencontrées jusqu'à présent, c'est pas mal ça.
C'est intéressant parce que ça démontre aussi un espèce de biais que vous aviez pas, que vous saviez pas que vous aviez, dans le fond, qu'une scène en particulier qui, selon vous, était désagréable, mais pas au point où ça pourrait être dangereux de le présenter à quelqu'un. Finalement, il y avait une variation assez impressionnante dans les réactions. Donc, c'est comme un rappel, dans le fond, qu'on a nos biais, nos propres biais.
Même on est allé voir dans la littérature donc des études qui ont utilisé cette scène-là particulière, qui l'ont validée comme induisant des émotions négatives, puis comme quoi c'était sécuritaire, puis qui l'ont utilisé avec cette population-là. Donc, on a quand même fait nos recherches pour essayer de trouver quelque chose qui était efficace et sécuritaire, puis on a quand même eu des réactions vraiment opposées, extrêmes. Donc,
Bien, c'est super intéressant. Je vous souhaite bonne chance pour la suite de votre doctorat. J'ai bien hâte d'en savoir plus. Vous viendrez faire une présentation à notre série Conférence Midi de l'Institut Santé et Société une fois que ça sera déposé. On aime bien recevoir des étudiants, des finissants pour présenter leurs résultats finaux. Donc, merci encore. Samuel Saint-Amour, candidat au doctorat interdisciplinaire en santé et société. Bonne journée.
Merci, bonne journée.